L'épave de François Copé. Devant la mer, assise au seuil de leur maison, la veuve du marin et son jeune garçon sont en grand deuil. Hélas, l'équinoxe d'automne a fait d'affreux malheurs sur la côte bretonne, et c'est pourquoi, rêveur devant le ciel du soir, cette femme et son fils sont habillés de noir. Ah, dans ce lac paisible, où sous la brise fraîche viennent de s'éloigner les fins bateaux de pêche, dont les voiles là-bas blanchissent dans le ciel, nul ne reconnaîtrait cet océan cruel, qui, l'an dernier, pendant la grande marée haute, en un jour, a broyé 20 barques sur la côte. Et parmi tant de deuils dont le pays est plein, a navré cette femme et fait cet orphelin. Le ciel peut être pur, la mer peut être belle. La veuve du marin est sombre et se rappelle l'effroyable tempête où son homme a péri. C'est aussi de sa faute à mon pauvre mari, dit-elle en soupirant à son fils qui l'écoute. Il faut porter secours au malheureux, sans doute, et nul ne l'a fait plus que mon pauvre Mathieu. Mais affronter ainsi la mort, c'est tenter Dieu. On n'avait jamais vu pareille marée. Ton père était chez nous, sa barque était rentrée. Il disait en mangeant sa soupe, il faut qu'on soit maudit pour être en mer par ce temps de nos rois. Après dîner, Mathieu prend sa pipe, l'allume et va fumer dehors comme il avait coutume. Là, malgré le gros temps, ils étaient quelques-uns qui regardaient sauter et mousser les embruns. Quand tout à coup, voilà que mon homme remarque, du côté des rochers Saint-Pierre, un trois-mâts barque. D'où Jésus, ce ne fut pas long. Dans deux clins d'œil, le malheureux navire s'échoua sur l'écueil. « Un canot !» dit Mathieu. J'étais épouvanté. Les autres lui montraient cette mer démontée et la lame en fureur qui crachait des galets. « Un canot !» répétait ton père. « Sauvons-les ! Un canot à la mer où nous sommes des lâches ! Le mien, si vous voulez, car au plus rude tâche, il est bon. Il ne craint ni les flots, ni le vent, et je l'ai baptisé du beau nom, en avant !» Ah, les hommes sont fous, mon Tienno. Ils partirent, et tous ont péri, tous. À l'heure où se retirent les vagues, tu m'as vu aller, tout cet hiver, aussi loin que va la basse mer. Mais l'océan qui meurt à mes pieds et les lave n'a jamais rendu la plus petite épave, pas plus du grand trois-mâts que du pauvre bateau. Ah, mon mignon chéri, pauvre petit Tienno, ne va plus sur la mer. Tu sais, j'ai ta promesse. Monsieur le recteur t'aime et tu lui sers la messe. Il t'apprend l'écriture. Eh bien, c'est ton destin. Tu deviendras un prêtre et parleras latin. Et puis, loin de ces flots dont le bruit m'épouvante, quand tu seras curé, je serai ta servante. Ne te fais pas, marin. D'ailleurs, tu m'as promis. L'enfant se tait. Il songe à ses petits amis, à ses gamins qu'il voit, dès que le matin brille, à bord d'une chaloupe aller à la godille, tandis qu'il n'ose plus de craintif orphelin nouer un aviron, ni nouer un grelin. Il a promis, il veut obéir à sa mère. Mais lorsque le curé, refermant sa grammaire, lui dit « Va t'en jouer, et qu'il est libre enfin, troussé jusqu'aux genoux, et sur le sable fin marchant pieds nus, il court bien vite vers la grève. » Et le fils du marin cherche à tromper son rêve. Mais sentir l'âpre vent souffler dans ses cheveux, Et l'eau froide, montée sur ses mollets nerveux, voir au loin le gros coup de la lame mauvaise, éclater en couvrant d'écume la falaise, remplir tout un panier de crevettes, chercher quelque idiot mort, tapis sous un rocher, ou saisir le lançon dans sa course rapide, cela ne suffit pas à ses goûts intrépides. Non, son ardent désir, c'est le bateau mouvant et ses voiles rondes et ses deux focs au vent, et le lest de galets humides qui le charge. C'est la course au lointain horizon, c'est le large, avec sa forte houle et son grand souffle amer. C'est l'ivresse d'aller vers cette haute mer dont le parfum le grise et le rythme l'attire. Et voilà de longs mois que dure ce martyre. Mais le temps passe, encore un équinoxe affreux, et les marins du port, un jour, causant entre eux, tout comme l'an dernier sur la mer en délire, viennent de signaler un malheureux navire. Un brick, cette fois-ci, qui touche le récif. À chaque lame, il fait ce sursaut convulsif qu'on pourrait appeler le râle du naufrage. « Un canot à la mer, des hommes de courage !» dit quelqu'un. Aucun d'eux n'a pu certes oublier les braves camarades morts de l'automne dernier. Mais voilà qu'on entoure une barque et qu'on l'arme. La mère de Tieno est là, pleine d'alarmes. Elle étreint son fils et lui redit tout bas, « Tu sais, tu me l'as bien promis, tu n'iras pas. » Et les yeux dilatés et se mordant la bouche, l'enfant ne répond rien et regarde farouche les braves compagnons qui parent le bateau. Tout à coup, une lourde et sombre masse d'eau s'écroule avec fracas, couvrant tout de sa bave. Et devant l'orphelin, elle jette une épave. Une planche pourrie et rongée, où l'enfant a déjà distingué ces mots, « En avant !» C'est un ordre du père. Les sauveteurs sont là. Ils poussent leur canot. Et s'arrachant des bras de sa mère, Tieno saute auprès d'eux, saisit à la hâte une rame, et les voilà partis avec l'énorme lame. Comme on les suit des yeux, hardis-là, comme ils vont. Cette vierge, voyez cette lame de fond. Ils sont chavirés. Non, le canot se redresse. Il va toucher, il touche au navire en détresse. Il était temps, le brick se penche à faire peur. Ils reviennent déjà, voilà des gens de cœur. Qu'ils sont chargés, ils ont de l'eau jusqu'au bordage. Combien en avez-vous sauvé? Tout l'équipage! Hourra! Et tandis que joyeux, sautant sur les cailloux, sauveteurs et sauvés, devant l'écume amère, le brave enfant Tieno dit à sa pauvre mère, qui de ses bras brisés l'entoure en sanglotant, « Maman, ne gronde pas, le père est si content. »